إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، نتابع دروسنا فيما يتيسر من كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد أخذنا شرح الشيخ الفاضل محمد بن سعيد النرسلان حفظه الله تعالى، وبحمد الله عز وجل وصلنا إلى الحديث 46. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى. Donc on continue بإذن الله la lecture de l'explication du livre Al-Adab al-Mufrad de Cheikh Raslan hafizahullah ta'ala. Et on s'était arrêté la fois dernière auprès du hadith numéro 46. Islam, tu peux lire s'il te plaît. Tu as bien fait, alhamdulillah. Barakallahu fik. طيب. الآن إن شاء الله تعالى سنواصل قراءة كلام الشيخ أصلان حفظه الله تعالى في قصة عجيبة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أن العوام ابن حوشب قد نزل مرة حيا، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فقال لما كان بعد العصر انشق فيها قبر. ها؟ تتذكرون هذه القصة؟ فخرج رجل رأسه ماذا؟ الحمار، رأس الحمار، وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطلق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ فقلت: ما لها، ما لها تلك العجوز؟ قالت: تلك أم هذا، أم هذا الذي خرج من قبره، رأسه رأس حمار، فهذه العجوز أم هذا، والعياذ بالله. قلت: وما كانت قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح، إذا خرج من بيته من أجل شرب الخمر قالت له أمه يا بني يا بني اتق الله إلى متى تشرب الخمر إلى متى فيقول لها إنما أنت تنحقين كما ينحق الحمار فمات هذا الولد بعد العصر هذا اليوم قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق 3 نحقات ثم ينتهق عليه القبر أو ثم ينطبق عفوا عليه القبر. Donc pour ceux qui étaient présents, on avait lu une qissa, un récit rapporté par le cheikh, dans lequel on apprend que l'Awwam ibn Hawshab, donc un certain Al-Awwam ibn Hawshab, rahimahullah, était descendu dans un endroit, un quartier, un district. Et à côté de ce district, il y avait un cimetière. Après l'Asr, il a vu, subhanallah, qu'une tombe s'était ouverte, laissant sortir une créature avec un corps humain, mais avec une tête d'âne. Cette créature est sortie, elle a fait 3 cris, comme font les ânes, 3 braiements. Puis, la tombe s'est refermée sur lui. Puis il vit une femme, une vieille femme, qui n'était pas loin, en train de coudre, qui lui a dit, tu vois cette... une autre femme lui a dit, tu vois cette vieille femme-là, qui est en train de coudre? Il lui a dit, oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle lui dit, eh bien, c'est la mère de celui que tu as vu sortir de la tombe. C'est sa mère. Donc il a dit, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, en fait, son fils, avant de mourir, buvait de l'alcool. Buvait. Et un jour, lorsqu'il a voulu sortir de chez lui pour aller boire, sa mère l'a conseillé, comme doivent le faire toutes les mères, qui sait que son fils va commettre un péché. Elle lui a dit, oh mon fils, oh mon cher fils, ya bunay, crains Allah tabarak wa ta'ala. Jusqu'à quand vas-tu boire? Jusqu'à quand? Il a matin. Et là, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, tu ne fais que braire comme braient les ânes. Yani, tu ne fais que crier comme crient les ânes. Comme gueule l'âne. Puis il est mort ce jour-là. Et ce fils est mort ce jour-là après avoir insulté sa mère. Il est mort après Salat al-Asr. Et là, la femme de dire, et donc la tombe depuis ce jour-là, elle s'ouvre toujours au même moment, tous les jours. À l'heure de l'Asr, elle s'ouvre en laissant sortir ce fils qui a donc le corps humain mais avec une tête d'âne et qui fait 3 cris, comme font les ânes, puis la tombe se referme sur lui. Subhanallah. Le hadith, les frères, l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit qu'il est hassan. C'est un hadith qui est hassan. Donc, dans la chaîne de transmission, a été étudié, vérifié, et tous les rapporteurs sont bons. Tous les rapporteurs sont bons. Donc, on ne doit pas avoir de doute là-dessus. ثم يقول الشيخ رسلان حفظه الله أخذه الله عز وجل في البرزخ أي عذبه في البرزخ بهذا العقاب العظيم الرأس رأس حمار والصوت صوت الحمار أما الجسد فجسد إنسان والهيئة هيئة إنسان والقبر ينشق عنه في ساعة الممات سواء بسواء كل يوم كل يوم في نفس الساعة يخرج الحمار الإنسي أو الإنسان الحماري قول الشيخ يخرج إنسان حماري أو حمار إنساني من أجل أن ينهق 3 نحقات بمسمع من أمه ومرأة بمسمع من أمه ومرأة أي تسمعه أمه وتراه أمه تسمع نهيق ابنها الذي كان يلمزها قبل بأنها كانت تنحق كما ينحق الحمار فهذه نتائج رتبت على مقدماتها والمسألة كل المسألة تدور على هذا المحور الذي مر ذكره لا تظن أن البر طاعة فيما تحب لا تظن أن البر هو الطاعة فيما تحب فقط لا بل البر كل البر الطاعة فيما تكره الطاعة فيما لا تحب أحياء وأمواتا أيضا لأن البر بهما على ظهر الأرض كالبر بهما بعد أن يغيبوا في باطنها وقد تؤتى من قبل هذا المأتى وأنت لا تشعر ولا تدري طيب يقول الشيخ رسلان à propos de cette قصه il dit donc Allah tabarak wa ta'ala punit ce fils dans le monde que l'on appelle al-barzakh le monde intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà ce monde l'appelle al-barzakh donc Allah tabarak wa ta'ala à cause de cette insulte qu'il a eue envers sa mère Allah Jalla wa Ala le châtie dans le barzakh de ce châtiment là énorme et douloureux a'udhu billah. La tête d'un âne la voix d'un âne mais le corps d'un humain et l'aspect d'un humain donc cette tombe là s'ouvre tous les jours à la même heure sawa'an bisawa exactement à la même heure et il sort à ce moment là une créature il dit le cheikh soit un humain hein yani, ayant la forme d'un âne ou un âne ayant la forme d'un humain mi-homme mi-humain afin de sortir et gueuler 3 fois comme gueulent les ânes et pour que sa mère le voie et l'entende. Et sa mère à chaque fois, elle le voit et elle l'entend. Imaginez la douleur. La douleur hein, que peut ressentir la mère. C'est son fils quand même. Subhanallah. Donc non seulement il lui a fait du mal lorsqu'il était vivant, mais il continue à lui faire du mal encore. Même après sa mort, à cause de la vision qu'a sa mère. Donc ceci, dit le cheikh, est le résultat des actes qu'il a commis de son vivant. Tout ça pour dire que l'obéissance et la bienfaisance aux parents, les frères, tournent autour d'un même axe central. Ne pense pas, dit le cheikh, ne pense pas donc que l'obéissance aux parents se fait uniquement dans les choses que tu aimes faire, que tu prends du plaisir à faire. La vraie bienfaisance envers les parents, la vraie obéissance envers les parents, c'est dans les choses que tu n'aimes pas forcément faire. Vous voyez ? C'est ça la vraie obéissance, la vraie bienfaisance envers les parents. Et cela concerne, comme on a dit, quand tes parents ils sont vivants, mais également après leur mort. Après leur mort, tu te dois d'être bienfaisant envers eux. Hein? Notamment en liant les liens d'amitié qu'ils avaient lorsqu'ils étaient vivants, par exemple. Car la bienfaisance, il dit le Cheikh, envers les parents se fait lorsque ils sont vivants sur terre, mais se fait également lorsqu'ils sont enterrés sous la terre. Ceci est une chose que on doit se souvenir et qu'on ne peut pas délaisser. ثم يقول في وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها معاذا رضي الله عنه قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك أخرجه أحمد وقال الألباني رحمه الله في الإرواء بعد أن ذكر هذا الإسناد إسناده رجاله ثقات كله وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير طيب بيجي Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une recommandation à Mu'adh, radiyallahu anhu, il lui a dit, n'associe rien à Allah, tabaraka wa ta'ala, même si tu te fais tuer ou brûler. Même si tu dois te faire brûler ou tuer. Et ne désobéis pas à tes parents, même s'ils t'ordonnent d'abandonner ton épouse ou de répudier ton épouse. Même s'ils t'ordonnent de leur donner tous tes biens. Regardez, subhanallah. Donc, le hadith, il dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit tous les rapporteurs, ils sont thiqat. Maintenant, on a vu, les frères, que ce n'est pas dans l'absolu. Ce n'est pas dans l'absolu. L'obéissance aux parents dans la répudiation de l'épouse ou dans la dépense de l'argent et des biens n'est pas une obéissance dans l'absolu. D'accord ? Il ne faut pas que cela soit ordonné pour des raisons non légiférées. D'accord ? Hein ? On a vu le hadith d'Ibn Omar, vous vous rappelez, lorsque son père Omar lui avait ordonné de répudier sa femme, il a refusé parce qu'il l'aimait. Puis Omar est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a expliqué. Et là le prophète d'ordonner Ibn Omar de répudier sa femme. Et il a répudié. Mais soyez sûr qu'il lui a ordonné cela pour des raisons légiférées, des raisons religieuses. Pas pour des raisons futiles. Pas parce que sa mère ne s'entend pas avec la mère du garçon. Hein? Des fois, tu vois, il y a une dispute entre les belles-mères. Il demande au garçon de répudier sa femme. Pourquoi? Parce que, voilà, sa mère, elle m'a dit ça et c'est ça. Dans ce cas-là, tu n'obéis pas. Dans ce cas-là, tu n'obéis pas. Un jour, ils ont demandé à l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, une personne a exposé son cas. Et il lui a dit, mon père ou ma mère, je ne sais plus, m'ordonne de divorcer de ma femme. Il lui a dit, ne la divorce pas. Alors on lui a dit, ya Aba Abdullah, Mohamed, comment ça se fait alors que Omar a ordonné à son fils de répudier sa femme? Il lui a dit, est-ce que ton père c'est Omar? Est-ce que ton père c'est Omar? C'est-à-dire, est-ce que ton père, hein, a les mêmes raisons que Omar dans son ordre? n'ont pas les mêmes raisons. Est-ce que ton père avait les mêmes raisons que Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a demandé à son fils de divorcer sa première femme? Pas les mêmes raisons. D'accord? Donc c'est pas dans l'absolu. Pareil pour les biens, c'est pas dans l'absolu que tu dois obéir à tes parents dans la dépense des biens. Il ne faut pas que ce soit non plus une nuisance pour toi. D'accord? Et pareil pour le début du hadith, lorsqu'il dit n'associe rien à Allah, même si tu dois te faire tuer ou brûler. C'est pas dans l'absolu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman. Allah tabaraka wa ta'ala, il a autorisé pour celui qui est contraint d'une vraie contrainte réelle de faire du kufr ou de prononcer une parole de kufr. Donc là, ce hadith, les frères utilisent ce qu'on appelle une hyperbole, une exagération. C'est vraiment pour montrer la gravité du shirk et la gravité de la désobéissance aux deux parents. Mais sinon, celui qui sait que si il ne fait pas le kufr ou le shirk alors qu'il va se faire tuer s'il le fait, et que sa mort elle va entraîner un préjudice énorme pour la Ummah, lui, il ne doit pas mourir. Lui, il doit accepter de faire le kufr, de se prosterner pour mathalan une tombe, de prononcer une parole de kufr, parce que sa vie représente un bien énorme pour la Ummah. Et à l'inverse, celui qui sait que si il commet du kufr, ça va représenter un mal énorme pour la Ummah. Il va entraîner derrière des gens dans l'égarement, énormément de gens dans l'égarement. Eh bien, lui, c'est mieux pour lui. On ne dit pas que c'est interdit, mais c'est mieux pour lui de ne pas faire le kufr. Attention, le hadith, à ne pas prendre au pied de la lettre de manière absolue. ثم يقول إننا لا في شك من هذا أو في جهل به أو في رد الله وقد يؤتى المرء من قبل هذا المأتى وهو به عالم أو وهو به جاهل أو وهو فيه شك وكل ذلك على سواء فالنتيجة واحدة ويكون حسنه أضعف ما يكون في هذه المنطقة فيؤتى من قبلها. Là, juste il fait un petit rappel sur le fait que l'obéissance, elle se fait dans les choses que tu n'aimes pas. C'est là l'obéissance, la vraie obéissance, la vraie bienfaisance envers tes parents, que tu le saches ou pas. فعلينا أن نتأملها مليا وأن نجعلها بإزاء قلوبنا كما قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون ملعون من عق والديه وملعون من سب والديه. الأول أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني رحمه الله لغيره في الصحيح الترغيب والترهيب هذا الأول، والثاني رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيح الترغيب والترهيب. Donc il dit le cheikh, on se doit de méditer et de réfléchir yani sérieusement, attentivement, et on doit se souvenir de ça et le mettre dans nos cœurs. Comme il dit Allah tabarak wa ta'ala par rapport à l'épouse de l'Aziz, du roi d'Égypte, donc qui avait essayé de séduire Yusuf alayhi salam. Elle a dit quoi? Elle a dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Mais cependant, je ne m'innocente pas. Cependant, je ne m'innocente pas. Vous voyez? C'est-à-dire que elle a reconnu qu'elle était coupable quand même de ce qu'elle a voulu faire à Yusuf alayhi salam. Puis elle dit إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Car l'âme est très incitatrice au mal. Il sauf celui à qui mon Seigneur a fait rahma. Ça y est. Donc réfléchis notamment sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: maudit est celui qui est malveillant envers ses deux parents, et maudit est celui qui a insulté ses deux parents. Donc les deux hadiths, les frères, authentifiés par Cheikh Al-Albani. فَمَلْعُونٌ أَيْ مَطْرُودٌ مِنَ الرَّحْمَةِ. معنى ملعون أي مطرود ومبعد من الرحمة. والمطرود من الرحمة لا تدركه ولا تتنزل عليه والعياذ بالله. Donc le terme ملعون, ما معنى ملعون؟ مودي ملعون بمعنى éloigné de, éloigné, repoussé, rejeté. Éloigné de quoi? De la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui est éloigné de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rahma d'Allah ne pourra pas l'atteindre. Il ne pourra pas descendre sur lui. Il ne pourra pas le toucher. Subhanallah. فتأمل ماذا يمكن أن يأتي من هذا الملعون لا يأتي منه إلا كل ما يسوء الذنوب بآثارها والآثام نتائجها وهي فاعلة في الحالات كلها في الجسد الحي فاعلة في الروح الحية فاعلة في هذه الدنيا أفرادا ومجتمعات وأمما وعالما والعالم مطبق على المعصية إلا من رحم ربك فاللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. Donc tu dois réfléchir. Quand une personne est mal'oun, une personne qui désobéit, qui fait du mal à ses parents, qui n'obéit pas à ses parents, elle est mal'oun, elle est maudite. Et quand elle est mal'oun, il dit le cheikh, la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala ne l'atteint pas. Et si la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala ne l'atteint pas, ne va sortir de cette personne-là que du mal, que des péchés avec leurs conséquences. Et donc cela va toucher non seulement son corps de son vivant, mais son âme également. Et cela va avoir des répercussions sur les individus, sur les sociétés, sur les communautés, ainsi que le monde, l'alam. Vous savez que l'univers tout entier, il est envahi par les péchés. Sauf ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait rahma, puis le cheikh de demander à Allah qu'il nous pardonne, qu'il nous fasse rahma, et c'est lui le plus clément des cléments. ثم يقول قيل في العقوق أقوال كثيرة منها أولا الولد العاق إن مات نغصك وإن عاش نقصك. Donc là le cheikh il va mentionner quelques dictons entre guillemets ou des phrases concernant la désobéissance aux parents. Parmi elles, parmi ces phrases, il est dit que l'enfant qui est aq, qui est désobéissant, lorsqu'il meurt, il te fait du mal. T'attriste la mort d'un enfant, même si c'était un enfant désobéissant, cela t'attriste et te fait du mal. Et lorsqu'il est vivant, eh bien il te rabaisse et il ne te donne pas le droit que tu mérites. Voyez? Donc l'enfant désobéissant, de son vivant comme après sa mort, eh bien c'est une source de tristesse pour les parents. الثاني العقوق ثقل ما لا ثقل له. العقوق ثقل ما لا ثقل له. Ils disent aussi également que la désobéissance aux parents, c'est la perte d'un être cher alors que tu ne l'as pas perdu. الثقل بالكاف الثقل فا كاف لام. C'est le fait de perdre un être cher. D'ailleurs, donc il dit ici, quand ton enfant il te désobéit, c'est comme si tu l'avais perdu, alors qu'il est encore vivant. A'oudhou billah. Thalith, al-walad al-aq kal-usbu' al-za'ida. Al-walad al-aq kal-usbu' al-za'ida. إن تركت شانت وإن قطعت آذت. Il dit aussi que l'enfant désobéissant, c'est comme un doigt en plus. Donc imaginez-vous un onzième doigt. C'est comme si tu avais un onzième doigt. Ils disent, si tu le laisses, شانت. يعني ça enlaidit les mains. Ça y est. Chose de qui est pas beau à voir, mais si tu le coupes, il te fait mal. Donc ce doigt, cet enfant-là, yani, qu'ils ont comparé au doigt, en plus de son vivant, eh bien c'est quelque chose qui va te déshonorer, qui va te faire du mal, qui va t'affliger de son vivant. Et le terme déshonorer, il est juste, car un enfant désobéissant, il déshonore ses parents. Un enfant que tu vois dans la rue, en train de voler, en train de fumer, en train de boire, c'est un déshonneur pour les parents. Wallahi, c'est une honte. C'est une honte. Mais ce doigt-là, si tu le coupes, il te fait mal. Cet enfant-là, s'il meurt, ça te fait mal aussi. قال زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم لابنه إن الله رضيني لك فأوصاك بي وحذرني منك. Puis il dit une phrase prononcée par Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire donc l'arrière petit-fils d'Ali. D'accord? Donc le Hussein, c'est le fils d'Ali. Al-Hussein avait un fils qui s'appelait Ali aussi, qui était donc le petit-fils d'Ali. Et Ali avait un fils qui s'appelait Zayd, qui était donc l'arrière-petit-fils du compagnon Ali. Et donc Zayd a dit à son fils, il l'a dit, certes Allah tabarak wa ta'ala m'a choisi pour être ton père. Radiani laka. Allah m'a choisi moi pour être ton père. Fa'osaka bi. Et Allah Jalla wa'ala t'a recommandé en ma faveur. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala t'a ordonné de m'obéir et d'être bienfaisant envers moi. Wa haddarani minka. Et Allah Jalla wa'ala m'a mis en garde contre toi. Allah m'a mis en garde contre toi. Comme il a mis en garde contre les épouses et les biens de ce monde. Et on avait dit que ce qualificatif qu'Allah tabarak wa ta'ala a donné aux enfants et aux épouses, comment il les a appelés Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran? Hein? Fitna, na'am. Pire que ça encore. Adou. Adou. Ennemi. Ennemi. Comme ils disent les ulama, ça ne veut pas dire que ils te détestent et que toi tu les détestes. Au contraire, ils t'aiment et toi tu les aimes. Mais justement, c'est à cause de ça qu'il y a la fitna. La fitna qu'il peut y avoir, c'est justement à cause de cet amour que tu as pour eux. Il se peut que tu les aimes tellement, et bien que tu vas t'éloigner d'Allah à cause de cet amour-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, il a dit que c'était une épreuve pour voir si tu vas préférer obéir à Allah tabarak wa ta'ala ou tu vas faire passer l'amour de ta famille, l'amour de tes parents avant l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Donc regardez la parole que Zayd ibn Ali ibn Hussein a dit à son fils. وقيل للصبي لما لم تتعلم الأدب قيل للصبي طفل صغير لما لم تتعلم الأدب قال أخاف أن أكذب والدي فإنهما يقولان لي إنك لا تفلح أبدا فيرى هذا الصغير أن من البر لهما أن لا يكذبهما فَهُوَ لَا يُفْلِحُ أَبَدًا. Un jour, on a dit à un enfant, un petit enfant, un sabi, il se peut qu'il ait 4, 5 ans, 6 ans, pourquoi n'apprends-tu pas les bonnes manières? Donc, il se peut qu'il ait des mauvaises manières, c'est pour ça qu'on lui a dit ça. Pourquoi tu n'apprends pas la politesse, les bonnes manières, l'adab? Il a dit quoi? Il a dit, j'ai peur de faire mentir mes parents. J'ai peur de faire mentir mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ses parents? Car ils m'ont dit, certes, tu ne réussiras jamais. Donc attention aux paroles que vous dites à vos enfants. Hein? Et tu ne vas jamais rien faire de bien. Tu ne vas jamais réussir dans la vie. Des parents qui disent ça à leurs enfants. Tu ne réussiras jamais à l'école. Tu n'auras jamais un bon travail. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc, je vois que c'est partie de la bienfaisance et de l'obéissance envers eux, eh bien de ne pas les faire mentir, de ne pas les discréditer. Et donc j'ai décidé de jamais réussir. Et donc de ne pas apprendre ni les bonnes manières, ni rien du tout. كان للمبرد ابن متخلف فقيل له يوما غطي سوءتك فوضع يده على رأس ابنه. Il a été rapporté également que le Mubarrid رحمه الله تعالى qui a vécu, si je ne me trompe pas, au 3e siècle de l'Égypte ou au 2e, avait un enfant qui était, attardé, mutakhallif, un peu attardé, simple d'esprit. Un jour, on lui a dit à ce père, cache tes défauts, cache tes mauvaises actions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main sur la tête de son fils. Yani, par honte, yani, du fait que son fils n'était pas quelqu'un d'intelligent ou d'avancé intellectuellement. بعث رجل ولده ليشتري له حبلا فقال للولد اجعله 20 ذراعا اي اشتري حبلا طوله 20 ذراعا فقال الولد في عرض كم في عرض كم فقال في عرض مصيبتي فيك يا بني. Un jour, un homme, il a envoyé son fils acheter une corde. Il a dit à son fils, ramène-moi une corde d'une longueur de 20 coudées, de 20 dira. D'accord, donc une coudée, c'est du coude jusqu'au bout des doigts, jusqu'au majeur, le bout du majeur, jusqu'au coude, c'est ça une coudée. Donc certains ils ont divergé sur la longueur de la coudée, certains ils ont dit c'est à peu près 45 cm, d'autres 50, d'autres 60, Allahu a'lam. Il le dit, donc ramène-moi une corde qui mesure 20 coudées. Et son fils, il lui a dit, et de quelle largeur? Et de quelle largeur? Il lui a dit, de la largeur de mon malheur à cause de toi. De la largeur de mon malheur à cause de toi, ô mon fils. Donc on voit que les parents, c'est ça pour dire que les parents, ils sont vraiment touchés par... par leurs enfants, par la situation de leurs enfants. Et en général, ils sont inquiets, ils sont anxieux, hein, à cause de ce que vivent leurs enfants. Non. وهذه نصائح للأبناء إذا أخذوا بها استقامت حياتهم وكانوا على رجاء العافية في الدنيا والآخرة. Donc là, il finit le shaykh, ce chapitre, en mentionnant les conseils donc en faveur des qui ? Des enfants. Là, il conseille les enfants. Il dit, si vous mettez en pratique ces conseils-là, votre vie sera bonne. Et vous pourrez espérer être préservé, ici-bas et dans l'au-delà. النصيحة الأولى يقول أطع أمك وأباك أطع أمك وأباك في كل ما به أمرك ما لم يكن معصية. Premièrement, dit le Cheikh, obéis à ta mère et ton père dans tout ce qu'ils t'ordonnent de faire, sauf si bien sûr cela n'est pas un péché. الثانية خاطبهما بلطف وأدب. Deuxièmement, adresse-toi à eux, parle avec eux avec gentillesse et politesse. D'accord ? Je vous conseille de les noter, les frères. On a 28. Ou sinon, vous reviendrez à l'audio, inchallah, si vous voulez les mettre par écrit. الثالثة انهض لهما إِذَا دَخَلَا عَلَيْكَ. Troisièmement, lorsque ils arrivent, lève-toi pour les accueillir. Lorsqu'ils arrivent, lève-toi pour les accueillir. Hein? Lorsque ton père, par exemple, il arrive chez toi, ou ta mère, ne reste pas assis sur le canapé. Genre, c'est elle qui vient vers toi. Non. Il y en a certains, c'est pire encore. Ils restent devant la console de jeu, ou devant le téléphone, ou devant la télévision. Ou alors ils sont allongés sur le lit. Sa mère, elle est arrivée. Non, lève-toi et va l'accueillir. Comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa fille Fatima. Sa fille Fatima. Lorsqu'elle arrivait, il se levait pour l'accueillir. Et sa fille faisait de même avec lui. Lorsqu'il arrivait, elle se levait pour l'accueillir. Rabi'a, hafiz ala sum'atihima wa sharafihima wa maliha wa irdihima wa malihima wa irdihima. Quatrièmement, préserve leur nom, leur image, leur nom, leur réputation. Ne salis pas leur réputation, même après leur mort. Préserve leur honneur, leur noblesse et bien sûr les biens matériels qu'ils ont laissés derrière eux. Al-khamisa akrimhuma wa a'tihima kulla ma yatluban. Cinquièmement, sois généreux envers eux, fais leur honneur et obéis-leur à chaque fois qu'ils te le demandent. السادسة شاورهما fi a'malik wa umurik. Sixièmement, concerte-les. Demande-leur des conseils dans tes affaires. Dans toutes tes affaires. Voyez ? Tu veux faire un voyage, tu as l'intention d'accepter tel ou tel travail, ou d'épouser telle ou telle femme, demande leur conseil. Concerte-les. En faisant ça, tu réussiras, bi'idhnillah. Sabi'a, akthir min ad-du'a wa al-istighfar lahuma. Septièmement, multiplie les invocations et les demandes de pardon pour eux. Donc si c'est des parents musulmans, tu peux leur demander pardon. Sinon, tu demandes à Allah la guider pour eux. Athamina, idha kana indahuma dhaif, fajlis bi qurb al-bab. Hein? Idha kana inda bayt abawayk dhuyuf, اجلس انت بقرب الباب باب يعني مكان الاستقبال مثلا صالون وراقب نظراتهما لعلهما يأمران بشيء خفية et خفية. Huitièmement, lorsqu'il y a des invités chez eux, toi tu es chez tes parents et des invités sont arrivés, donc ils les accueillent dans le salon. Il dit, assieds-toi près de la porte du salon et surveille leurs regards, surveille les regards de ta mère ou de ton père. Car il se peut qu'ils te fassent des signes pour te dire de ramener à boire, à manger ou hein, des couverts ou quoi qu'il en soit. Il se peut qu'ils te disent de faire des choses de manière secrète, furtivement, sans que l'invité ne le sache. Donc reste à côté pour justement pouvoir voir les messages qu'ils veulent te transmettre. Atasi'a, i'mal ma yasurruhuma min ghayri an ya'muraka bih. Naam, i'mal ma yasurruhuma min ghayri an ya'muraka bih, ay qabla an ya'muraka bih. Fahada idha umira bih. Neuvièmement, fais les choses que tu sais qui vont leur faire plaisir ou dont ils ont envie sans qu'ils ne te le disent. Yani avant même qu'ils te l'ordonnent, fais-le. Parce que si tu attends qu'ils te le disent, si tu attends qu'ils te disent de faire telle ou telle chose, cela va diminuer le plaisir pour tes parents. Non? Toi, pour ceux qui ont des enfants, quand ton enfant fait une chose avant même que tu lui demandes, tu es deux fois plus content. Tu es deux fois plus fier de lui. D'ailleurs, c'est vrai. Tes parents, c'est pareil. Si toi, tu prends les devants, tu vois par exemple qu'il y a des choses à réparer, où il manque de l'eau, il manque du lait, il manque du sucre, il manque du sel. N'attends pas qu'il te le demande. Va faire les courses, tu reviens. Cela va leur faire plaisir deux fois plus. Al-ashira, la tarfa' sawtaka 'aliyan amamahuma wa la tuqati'huma athna' al-kalam. Dixièmement, n'élève pas la voix devant eux. Mais quand tu parles, parle d'une voix toujours yani basse, à voix basse. N'élève pas la voix. Et ne les coupe pas quand ils parlent. Et quand ils parlent, ne les coupe pas. Attends qu'ils finissent de parler, ensuite tu parles. Al-hadiyata ashar, la tujadilhuma fi amr wa idha kunta ala yaqin mimma anta alayh fahawil أن تنقعهما بالحسنى فإن أصر على رأيهما فلا تعاندهما ولو كان على خطأ ولو كان على خطأ وهذا كله إنما تعلق بأمور الدنيا وأما أمور الآخرة فيبين فيها الحق برفق. Onzièmement, ne les contredis pas. Ne polémique pas avec eux. Si toi tu es sûr de ton avis, essaye de les convaincre de la meilleure des manières. D'accord ? Si tu es sûr de toi et que tu sais qu'ils sont dans l'erreur et que c'est toi qui as raison, essaie de les convaincre. Mais de la meilleure des manières. Mais si malgré ça, ils refusent d'accepter ton avis, n'insiste pas. N'insiste pas. Même si tu es sûr qu'ils sont dans l'erreur. Et ça, bien sûr, ça concerne les choses de la dunya. Là, on parle des affaires de la dunya. D'accord ? Quant aux affaires liées à l'au-delà, eh bien, tu te dois de continuer à leur exposer la vérité, mais avec douceur, avec gentillesse. Ne t'arrête pas. Ça y est ? Attends le meilleur moment pour le faire, mais essaie de les convaincre avec les preuves et surtout avec yani, sagesse et douceur. Non. الثانية عشر لا تكذب على أبويك لا تكذب على أبويك ولا تأخذ شيئا لم يأذنا بأخذه. Dit ici, ne mens pas sur tes parents, ne profère aucun mensonge sur eux et ne prends rien sans leur permission. Ne prends pas quelque chose qui leur appartient sans leur permission. Treizièmement, ne voyage pas sans leur permission. Ne voyage pas sans leur permission. Là, on parle bien sûr des voyages qui ne sont pas obligatoires. D'accord ? Alors que le fait de voyager pour aller apprendre l'aqida sahiha, apprendre comment faire ta prière correctement, dans ce cas-là, na'am, c'est un voyage qui est obligatoire. Et ce voyage obligatoire n'a pas besoin de demande de permission. Arabiat Ashar. Iza kunta mubtalan bima'siya. Katatrini mathanan. نسأل الله العافية فلا تفعل تلك المعصية أمامهما. نعم لا تدخن أمام والديك أعوذ بالله وإن سمحا لك بذلك. الله أكبر. Quatorzièmement, si tu es éprouvé par un péché, par exemple la cigarette ou pire que ça, eh bien, ne fume pas devant eux. Ne fais pas ce péché devant eux. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Même si ils te l'autorisent. Même si ton père te dit, tu peux fumer devant moi. Tu peux fumer devant moi, mais ne fume pas devant eux. Ne commets pas de péché devant tes parents. الخامسة عشر لا تزعج أبويك إذا كانا نائمين وتذكر حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حبسا في الغار وأن أحدهم توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح يخص بر أبويك أو أبويه وأنهما كانا كبيرين وكانا وكان يأتي إذا راح من رعيه بأغنامه فيحلب ثم يأتي بالقعب يجعله على يده ويقف حتى يشربا فتأخر مرة ثم جاء فوجدهما قد ناما فظل قائما عندهما واللبن على يده والصبيان يتضاغون حوله حتى استيقظا.
Quinzièmement, ne les dérange pas. Ne dérange pas tes parents alors qu'ils sont en train de dormir. Et rappelle-toi le hadith des trois personnes qui étaient restées coincées dans la grotte lorsque le rocher était tombé. Et que l'un de ces trois-là avait imploré Allah tabaraka wa ta'ala par une bonne œuvre qu'il avait faite ou qu'il faisait en faveur de ses parents qui étaient âgés lorsqu'ils sont en train de dormir. Cet homme-là, il avait l'habitude lorsqu'il partait pour que ses bêtes puissent brouter et qu'il revenait avec du lait, qu'il revenait à chaque fois avec un récipient rempli de lait pour le donner à boire à ses parents en premier. Et un jour, il est arrivé en retard. Il a trouvé ses parents en train de dormir. Est-ce qu'il les a réveillés? Non. Est-ce qu'il a donné le lait à ses enfants? Non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté debout auprès d'eux, avec le lait, et ses enfants, ils pleuraient. Ils pleuraient, ils criaient de faim et de soif. Mais il a préféré attendre que ses parents se réveillent. On imagine que les cris n'ont pas dérangé non plus ses parents. Voilà. Sinon, l'exemple n'est plus bon dans ce cas-là. Assadissa, Asha. La tufaddil zawjataka wa la waladaka alayhima. 16e, ne fais pas passer ton épouse ou tes enfants avant eux. Ne fais pas passer tes épouses ou tes enfants avant eux. Sabi'ata asha. La talumhuma idha amila amalan la yu'jibuk. 17e, ne leur fais pas des reproches s'ils font une chose qui ne te plaît pas. Ne leur dis pas pourquoi as-tu fait ceci et cela. Ne leur dis pas pourquoi n'as-tu pas fait ceci et cela. Pas de reproches. Imaginez-moi, écho. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait à son service Anas ibn Malik, qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Qu'est-ce qu'il a dit à Anas? Il a dit: pas une seule fois le prophète ne m'a dit pourquoi as-tu fait cela ou pourquoi n'as-tu pas fait cela. Pourtant c'est son serviteur. Que dire alors des parents? ثم الثامنة عشر لا تحمل عليهما بفضل عقلك فربما آتاك الله علما وعقلا وكانا جاهلين فربما تكلما فأضحك الناس بكلامهما فلا تبتئس. 18e, يعني, ne leur en veux pas par rapport au fait que peut-être tu es plus intelligent que eux, par rapport au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala peut-être t'a donné une intelligence, une raison supérieure à la leur. Il se peut qu'Allah jalla wa ala t'a donné une science, une intelligence qu'il n'a pas donnée à tes parents. Il se peut qu'ils soient ignorants. Il se peut que lorsqu'ils parlent, les gens rigolent. Taïeb, eh bien, il ne faut pas que tu aies honte d'eux. Il ne faut pas que tu aies honte de tes parents. Ou que tu t'affliges parce que tes parents ne sont pas très cultivés ou pas très intelligents. Et du coup, tu as honte de te montrer avec eux en public, par exemple. A'oudhu billah. N'aie jamais honte de tes parents. التاسعه عشر لا تضحك بحضرتهما اذا لم يكن ثم سبب للضحك. 19e, ne rigole pas en leur présence s'il n'y a pas de raison. Ne rigole pas, yani, pour rien alors que tu es à côté de tes parents. العشرون لا تتناول طعاما مما يليهما. 20e, ne mange pas ce qu'il y a devant eux. Ne mange pas ce qu'il y a devant eux. Donc là, ça concerne pas que les parents, ça concerne tout le monde en général, mais surtout tes parents. Taïeb. الحادية والعشرون لا تمد يدك إلى الطعام قبلهما. Et bien sûr aussi, ne mange pas avant tes parents. Ça aussi, lorsque la table est servie, attends que ton père commence à manger avant de manger. Et encore une fois, ça concerne aussi tout le monde. Lorsque tu es à table, hein, avec des gens, eh bien, attends que le plus âgé commence à manger. C'est parti des comportements aussi islamiques, que tu attends que le plus âgé commence à manger. Puis après, tu manges. Thumma la tanam wa la tattaji' wa huma jalisan. Puis il dit, ne dors pas ou ne t'allonge pas alors qu'ils sont assis. Taïeb. Si tu es assis dans le salon avec tes parents, si ton père il est assis, ne t'allonge pas. Ne t'allonge pas. Assieds-toi, reste assis. Il y en a des choses, subhanallah. Thumma la tajlis qablahu. La tajlis qablahu. Wa la tamshi amamahu. Wa la tusammihi bismi. Ça, on l'a vu déjà. Ne t'assois pas avant lui. Lorsque vous arrivez, hein, à la maison, ne t'assois pas avant ton père. Abouk. Abouk. Ne t'assois pas avant lui. Attends qu'il s'assoie, même s'il reste debout pendant 3 heures. Mais en général, ils se mettent bien après, ils s'assoient. Ils se mettent sur le fauteuil. T'as le père. Le fauteuil spécial, le père. Personne ne touche celui-là. D'ailleurs, ne marche pas devant lui. Ne marche pas devant lui. Et ne l'appelle pas par son prénom. Naam. Ne dis pas à ton père, Ya Muhammad. Ya Abdallah. Là. Dis plutôt, Ya Walidi. Ya Walidi. Ya Abi. Ya Abati. ثم لا تمد رجلك امامهما. Et également, n'étends pas tes jambes en leur direction. N'étends pas tes jambes en leur direction. Ou devant eux. Mais comme on a dit, yani, s'ils sont assis, reste assis. Et n'étends pas tes jambes. لا تجلس في العلو ويجلسان في السفل. Il dit ici, ne t'assois pas au-dessus, alors qu'eux, ils sont assis en dessous. Vous voyez ? Imaginons qu'il y a plusieurs étages. Hein ? S'ils sont assis en dessous, ne t'assois pas au-dessus d'eux. La tamshi بجانب أبيك في الطريق حتى في جانبي بل تأخر عنه قليلا تأخر عن أبيك إلا إذا كانت الطريق مخوفة فحينئذ تتقدم أنت ردءا له وحياطة وحفظا. Puis il dit, ne marche pas à côté de ton père sur la route. Donc là, c'est même pas devant ton père, c'est à côté. Ne marche pas à côté. Mais recule un petit peu. Mets-toi un peu en arrière par rapport à lui. Sauf si, dit le cheikh, comme on a déjà vu, sauf si la route, elle est dangereuse. Si la route, elle est dangereuse, dans ce cas-là, au contraire, tu marches devant lui afin de le protéger d'éventuels dangers, hein, et de le défendre. ثم يقول لبي نداءهما لبي أي أجب نداءهما مسرعا إذا ناداياك. Puis il dit réponds quand il t'appelle. مسرعا réponds يعني tout de suite. N'attends pas pour répondre. Ça, des fois, c'est le défaut des enfants ou des adolescents. Lorsque la mère ou le père les appelle, ils ne répondent pas de suite. Ils sont en train de jouer à la console. Donc, tu vois, ils vont attendre avant de répondre. On répond de suite à l'appel. Vous voyez ? Ça, c'est pour celui qui est en train de jouer à la console. Même celui qui est en train de prier, et on l'a vu ça déjà, même celui qui est en train de prier, une prière facultative, si ton père ou ta mère t'appelle, et que tu sais que si tu ne leur réponds pas, ils vont se mettre en colère contre toi, tu sors de prière. Dans ce cas-là, c'est mieux de sortir de prière. Si tu sais qu'ils sont des gens compréhensifs, voyez, qu'est-ce que tu fais? Hein? J'accélère, si tu veux, en respectant quand même les piliers, les obligations. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Voilà. Tu peux dire Subhanallah pour qu'elle comprenne que tu es en train de prier. D'accord? Ou tu peux tousser pour qu'elle comprenne. Voyez? Naam. Mais tu leur réponds quand ils t'appellent. وأخيرا لا تصاحب غير رجل بار بوالديه وإياك وصاحب العقوق. Et dernièrement, ne fréquente pas les gens qui désobéissent à leurs parents. Si tu sais que la personne est une personne qui désobéit à ses parents ou qui n'est pas bienveillante envers ses parents, eh bien ne la fréquente pas et ne reste pas avec elle. Donc il dit le shir, si tu respectes tous ces points là bihamdillah azza wa jal, ces 28 points, eh bien sache que ta vie sera une vie de droiture bihamdillah azza wa jal, et tu pourras espérer al-afiyah, tu pourras espérer le salut, la préservation ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Naktafi bihada inshallah ta'ala. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر الله